La room, c'est l'antichambre des grandes girls. Notre studio, aussi hybride que confidentiel. Un écrin de vie et d'envie au cœur de la ville. La nôtre, c'est Strasbourg. Dans la room, on reçoit des artistes, des personnalités éclairantes de passage chez nous. Elles viennent nous parler de leur actualité, de culture, de ce qui les anime et les fait vibrer. Dans cet épisode, on vous propose une rencontre avec une autrice et une photographe pour parler de désir et de plaisir féminin. Un sujet régulièrement abordé dans les grandes girls, mais qui n'a de cesse d'attiser notre curiosité. Peut-on jouir de tout quand on est une femme? On a posé la question à Maya Mazorette et Abigail Opérin, de passage à Strasbourg pour les bibliothèques idéales, et au cœur du projet Hold Up 21, un projet choral entre érotisme, féminisme et photographie. On vous laisse écouter aux portes de la room. Bonjour mesdames.
Bonjour.
Bonjour.
On est ravis de vous accueillir dans nos studios à la Room à Strasbourg, à quelques heures d'un démarrage et d'un lancement qui a déjà eu lieu il y a quelques jours déjà, du projet Hold Up 21. Mais ce soir, ça s'inscrit dans un événement un peu particulier, puisque c'est l'événement des bibliothèques idéales, sous, on va dire, le titre fort « La révolution en nous ». Et Hold Up 21 s'y inscrit, puisque c'est un projet rare et jouissif qui réunit dans un même objet précieux 20 autrices de nouvelles érotiques, une photographe et ne l'oublions pas quand même, parce que c'est important, un éditeur qui porte le projet depuis plus de 10 ans sur Hold Up 21 et ce braquage dont on va parler pendant tout ce podcast, Stéphane Carrière, des éditions Anne Carrière. Et voilà, vous êtes comédienne, journaliste, chorégraphe, réalisatrice, metteuse en scène, dramaturge, poétesse, enfin bref, il y a une multitude de profils réunis sur ce projet-là et autour de la table aujourd'hui, évidemment Katia, mais ça, elle va nous faire le clin d'œil dans deux secondes. Mais Abigail Opérin, qui est photographe sur le projet de Hold Up 21, et Maya Mazorette, qui est chroniqueuse, journaliste, autrice, et qui ouvre finalement ce projet de nouvelles érotiques, puisque c'est toi, Maya, qui a écrit la première nouvelle de Hold Up 21, qui s'appelle 21. On va en parler juste après. Alors c'est un braquage littéralement qui dépoussière les codes du genre de la littérature érotique avec un female gaze décomplexé qui fait un bien fou. Alors première question.
Salut quand même. Non mais si tu veux, vas-y déroule. Je ne suis pas là. Quand même, c'est quand même.
Non parce qu'en fait,
c'est quand même le premier épisode de cette première saison. Donc
première
juste
saison,
un petit
non mais douzième.
Douzième saison.
Tu reviens en arrière. C'est beau nos premières années à la radio.
Les débuts. Un les petit débuts. Peu. Je suis un peu intimidée. Idée comme les débuts, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés.
Détends-toi,
mais
ça
je
va
te
bien
laisse
se
me
passer.
Donner la main après.
Première question quand même pour parler de ce braquage. Est-ce qu'il faut consommer de la littérature érotique pour travailler autour d'un projet qui met le plaisir et le désir féminin au cœur? Maya?
Moi, personnellement, je ne consomme pas de littérature érotique. J'ai essayé un moment, je crois que les premiers que j'ai consommés, c'était les Harlequins de ma grand-mère quand j'étais jeune ado. Et alors, effectivement, on savait un petit peu exactement à quelle page ouvrir, parce que c'est toujours le même modèle. Et il y avait une scène de sexe pas très érotique, mais quand on a 14 ans, tout est un petit peu émoustillant. Et ensuite, moi, j'avais été un petit peu déçue parce que j'avais lu en tant qu'adulte et aussi en tant que journaliste, parce que c'est des bouquins que moi, je reçois dans le cadre de mon travail, d'avoir des fantasmes qui me ressemblaient pas, en fait. Pas forcément parce que c'était des hommes qui écrivaient, aussi parce qu'il me semblait qu'il y avait peut-être un vocabulaire, un imaginaire qui aujourd'hui est un peu vieilli, qui correspond peut-être pas à mes aspirations féministes. Et c'est vrai que pendant longtemps, j'avais l'impression que soit on était féministe et on faisait un travail sérieux, soit on produisait du contenu érotique et dans ce cas-là, c'était pas sérieux. Et je suis contente aujourd'hui de réussir à faire un truc qui réconcilie les deux parce que ces deux parties, ben, je les ai en moi. Enfin, bien sûr que moi j'ai du désir, bien sûr que j'ai envie d'être excitée, bien sûr que j'ai envie de jouir. Et en même temps, ça n'enlève rien à mon âme de militante très sérieuse. Il fallait que je trouve, pour moi en tout cas, un nouveau langage, des nouvelles consœurs, pour qu'on invente ensemble une nouvelle manière de faire de l'érotisme.
Et Abigail qui nous regarde, qui a moins l'habitude du micro.
Peut-être un peu moins, oui.
L'habitude de l'objectif, hein,
absolument.
Puisque tu signes ces 100 photographies, qui habille littéralement, qui ponctue l'intégralité des nouvelles de ce livre. Alors, explique-nous un petit peu, est-ce que toi, tu as dû, pour te plonger là-dedans, consommer, t'intéresser à ce que c'était que la littérature érotique?
Alors, la littérature érotique, moi, j'en ai lu adolescente, des choses avec beaucoup de crinolines, hein, des perruques, beaucoup de récifs de la Bretonne, ce genre de choses.
C'est à peu près ma seule connaissance, en réalité, de la littérature érotique. En revanche, puisque les nouvelles sont très audacieuses, moi, j'avais plutôt l'envie de proposer un contrepoint en photographie qui, justement, met pas tellement en appui l'érotisme, mais peut-être d'autres choses qui viendraient en complément, en fait, de ce qui est déjà écrit.
Katia, tu...
Ah non, je ne réagis pas, j'attends que tu me donnes la main.
Non, mais par contre, ça m'intéresse. Est-ce que tu consommes de la littérature toi-même érotique ?
Non, alors, personnellement, non, et c'est un sujet dont on partage souvent, mais je reviens sur Maya, parce que tu dis justement que tout ce que tu vois est un peu poussiéreux, que justement, il n'y a pas trop de propositions, et qu'à part Hold Up 21, tu n'as rien trouvé en tous
les
cas.
En fait, j'ai trouvé des propositions, mais peut-être pas classées dans le rayon littérature. C'est-à-dire que soit on dit c'est estampillé littérature érotique, et c'est vachement compliqué parce que ça veut dire que sur un bouquin entier, il va devoir y avoir des scènes de sexe toutes les 5-10 pages. Mais dans la vraie vie de tous les jours, enfin, même moi qui suis quand même vraiment une immense forniqueuse, toute ma vie ne se résume pas à la sexualité, en tout cas dans la pratique, puisque dans la théorie je fais que ça, on est bien d'accord. Donc effectivement, il y a dans le fait de faire de la littérature érotique un truc qui est un peu compliqué en soi, parce que ça paraît tout de suite très artificiel. D'un seul coup, on a des personnages qui n'existent que par et pour la sexualité, mais personne n'est comme ça dans la vraie vie. Et c'est vrai qu'ensuite, il peut y avoir effectivement des scènes érotiques dans ce qu'on appelle la belle littérature, la littérature générale. Alors c'est horrible parce que là, on fait des catégories et c'est injuste de renvoyer l'érotisme dans une espèce de niche comme ça. Mais peut-être que j'ai eu des émotions qui me correspondaient en écoutant de l'audio porno. Alors je ne sais pas si ça correspond à de la littérature, mais moi je trouvais que des fois c'était magnifiquement bien écrit, extrêmement bien interprété. Et sur des plateformes américaines comme Reddit, il y a un truc qui s'appelle Slash Gone Wild Audio, où c'est collaboratif. Il y a des personnes qui écrivent, il y a des personnes qui interprètent. Il y a des personnes qui peuvent aussi dire, voilà, moi, mon fantasme, c'est de faire l'amour dans une cave à Strasbourg. Et des personnes vont dire, ah, super, alors il y a 4 bonnes femmes autour d'un micro, il va se passer un truc absolument incroyable. Et j'ai trouvé ça aussi très beau qu'on puisse faire de la... je ne sais pas si c'est de la littérature, mais en tout cas de l'érotisme en commun. Peut-être que dans une certaine mesure, avec Hold Up 21, on refait ça, mais à 21 ans.
Alors, comment aujourd'hui réinventer sa sexualité ? On est toutes plus ou moins quarantenaires ou plus, c'est le moment où on fait un peu le bilan de notre sexualité, et puis parfois on se rend compte que finalement nos désirs ou ce qu'on a fait n'étaient pas forcément liés à soi, mais au désir de l'autre. Et parfois quand on se rend compte de ça, on se dit comment je reviens à mon désir et comment finalement je réinvente ma sexualité avec l'autre. Et ça passe beaucoup, tu le disais, par le fait que l'homme aussi connaisse notre corps. Comment il apprend à connaître notre corps ? Surtout quand je t'entends dire... et je cherchais mes papiers pour citer ça, qu'il fallait appuyer 15 minutes sur la partie nord-est du clito avec la pression d'une feuille de papier A4.
Deux feuilles de papier A4,
exactement. Attention. Ou de toucher le clito comme si on touchait nos propres paupières. Comment les hommes peuvent apprendre ça et où ?
Moi, c'est mon métier de le raconter, donc j'espère que tout simplement les hommes vont m'écouter moi, et puis aussi qu'ils vont écouter leur partenaire, parce que tout le monde ne fonctionne pas de la même manière. Et pour répondre à la question que tu posais juste avant, sur le fait que ce soit compliqué, peut-être quand on est cadrage justement, de retrouver son propre désir, il me semble que c'est pas juste une question de femme, c'est une question pour tout le monde, parce qu'on est finalement bombardé de représentations, d'images, de ce à quoi devrait être le désir juste, la jouissance correcte, ce qui est un désir et un plaisir légitime, en fait. Depuis qu'on est petit, enfin bien avant en fait, de pouvoir accéder à une sexualité relationnelle, en tout cas, et j'ai l'impression que pour tout le monde, le trajet, c'est de devoir incorporer tout ça, de devoir dans une certaine mesure s'y soumettre pour avoir l'impression d'être normal et de tenir sur ses deux jambes et de pouvoir fonctionner comme un être social. Et ensuite, réaliser que ça ne nous correspond pas et devoir détricoter tout ça. Et ce double mouvement qui nous fait perdre un temps considérable, je me demande s'il n'est pas indispensable et s'il n'y a pas aussi une forme de gratitude qu'on pourrait avoir face à ce double mouvement en disant « voilà, ça c'est la condition humaine ». C'est qu'on a un héritage. Donc le passé de l'érotisme, on ne l'a pas choisi. Il nous tombe dessus quoi qu'il arrive. Et c'est à nous ensuite de le réinventer. Le problème, c'est quand on ne sort pas de l'héritage. Et qu'on est coincé dedans et qu'on se dit, là, j'y arriverai pas. Moi, ma génération, par exemple, c'était beaucoup le cas avec les femmes qui disaient, mais c'est terrible, je suis clitoridienne, j'arrive pas à devenir vaginale. Là, par exemple, on voit bien que c'est une espèce d'injonction qui concerne... beaucoup moins les femmes de la nouvelle génération qui ne vont pas s'excuser d'avoir un corps qui fonctionne d'une manière qui est en plus très fonctionnelle en l'occurrence. Donc voilà, on se réinvente et c'est pas grave, et tant mieux. Parce que le pire qui pourrait nous arriver en fait, ce serait d'avoir exactement les mêmes désirs. de nos 12 ans, quand on commence à avoir, mettons, le droit socialement de les vivre, jusqu'à nos 102 ans. Là, ce serait compliqué.
Et juste avant de revenir sur Hold Up 21, et en parlant de sexualité aussi et de se réinventer, on dit que beaucoup de femmes, au bout d'un an, s'ennuient dans leur sexualité, hein, et que les propositions qui sont faites sont souvent autour de, des douleurs, ou en tout cas de violences, quelles qu'elles soient.
Et les propositions qui sont faites aussi, elles sont autour de la monogamie. Ça, pour moi, c'est un vrai énorme problème. C'est-à-dire qu'on dit, voilà, il faut réinventer sa libido sans en changer les paramètres. Alors moi, je veux bien, mais à un moment, c'est compliqué. Il faut toujours faire les mêmes gestes. Il faut qu'on ait les fantasmes qui correspondent au top 10 des fantasmes des Français. Et surtout, il me semble qu'il y a quand même quelque chose de l'ordre de la nouveauté qui me semble un petit peu indépassable. Et qu'on dit, par contre, il faudra surtout être fidèle à votre mari, désirer le même corps vieillissant pour toujours. Et éventuellement, dans ce cas-là, vous avez qu'à passer par des jeux de rôle et vous mettre des masques. Alors, je veux bien, il y a des personnes pour qui ça fonctionne super bien. Mais je sais que, par exemple, sur moi, ça ne fonctionnera pas. Et qu'à un moment, faire tenir ensemble le renouvellement de la sexualité et cette espèce d'injonction très féminine d'être fidèle et monogame semble être un petit contresens féministe.
Et comme tu le disais, j'ai beaucoup aimé ton image, manger un sandwich jambon beurre toute sa vie, on s'en lasse de toute façon à un moment ou à un autre.
Mais c'est impossible, ça ne correspond pas aux modalités du désir.
On veut un petit peu mettre de piment.
Exactement. En fait, c'est ce que pas mal de personnes font, quoi qu'il arrive, en pensant à quelqu'un d'autre que leur partenaire en faisant l'amour. Finalement, ça, c'est la version light que tout le monde pratique. Bon sang de bois.
Bon sang de bois. Je connaissais pas cette expression. Bon sang de bois.
C'est mon petit côté 16e siècle qui s'exprime.
Alors, Abigail, on va parler aussi de ton travail sur Hold Up 21, aussi sur la représentation du corps et des corps que tu mets en scène. Alors, des corps en deux mots et en un mot, hein, puisqu'il y a un travail très précis et très minutieux de recherche de décors. Alors, ça va de parking, de bureaux, de supermarchés, d'immeubles, de salles de classe.
Cite le plus impressionnant, l'avion.
Et l'avion, c'est vrai.
En fait, on a tous fantasmé de s'envoyer en l'air.
En fait, il y a ce truc de alors, tu t'es appuyé évidemment sur les nouvelles écrites par ces 20 autrices pour pouvoir raconter et faire tes tableaux de photographiques et artistiques. Mais on a l'impression finalement de voir tous ces fantasmes et que même qui sont dans l'inconscient collectif, c'est-à-dire effectivement la salle de classe, le bureau, le supermarché, on retrouve tout ça
la
dans ces nouvelles-là. La photocopieuse, bien sûr. Et tu les mets en scène de façon absolument incroyable. Raconte-nous un petit peu la démarche, ce projet-là, et surtout le fait que 100% des autrices de ce livre étaient ravies que ce soit toi, en fait, qui mette en scène ce livre, les photos de ce livre.
Oui, alors de toute façon, il y a eu un processus d'écriture, moi aussi de mon côté, qui a été très grand. En réalité, tout ce que vous voyez dans le livre, ça a été pensé et surtout storyboardé. Parce que j'avais quand même pour idée de garder aussi un dézoom sur l'objet que ça allait rendre globalement. Donc, essayer de ne pas se répéter, essayer d'offrir un maximum de diversité. Et une fois ce travail de storyboard accompli, j'ai pu commencer à mieux communiquer avec chacune des autrices sur ce qui allait se passer, ce qui allait accompagner leurs nouvelles. Et effectivement, il y a eu une grosse recherche de décors pour aussi offrir justement une espèce d'éventail assez large, aussi bien de fantasmes certes, mais juste un éventail photographique, enfin purement pictural. C'était ça qui m'intéressait. Et le fait de ne pas se priver de parfois aller dans une chose de paysage intérieur. Quand je parle de contrepoint, ça illustre vraiment pas les nouvelles parfois. Et c'est vraiment toute une espèce d'onirisme qui peut venir dialoguer en fait avec ce qui est raconté.
Alors, quand on lit et qu'on découvre un petit peu ton parcours et ton travail, on va forcément un petit peu glaner des informations sur ton site internet où tu partages tes œuvres et tes créations photographiques. Et on tombe sur cette phrase « La réalité de ce qu'elle fait est à la fois totalement vraie et totalement artificielle, 99% de polyester et 1% d'idéal. » C'est Aïna Aheri, qui d'ailleurs est autrice dans Hold Up 21, qui te raconte comme ça. Et alors, ce qui nous intéresse, c'est de savoir quel est ce pourcent d'idéal.
Ce pourcent d'idéal, il est couvert de pas mal de pudeur, en réalité. Mais disons que moi, je me retrouve beaucoup dans un univers pictural factice, parce que je pense qu'il est très protecteur et que ça permet de raconter des réalités un peu fragiles, de les glisser, tout en les protégeant. C'est un peu cette idée-là. Donc 1% d'idéal, je serais pas, ce serait la petite faille qu'il y a dans chaque photo qui justement est si lisse et si graphique. Et à chaque fois, il y a comme un tout petit détail qui fait qu'il y a un truc qui coince. Ce serait ça le pourcent d'idéal, ouais.
Est-ce que tu t'es confrontée à des refus, à des incompréhensions parfois des autrices? Parce qu'on va rappeler quand même le challenge immense de ce projet, c'est que non seulement tu mets en scène et tu mets en lumière ces nouvelles, mais le casting que tu as fait, on va dire les personnes qui entourent, les personnages qui entourent ces nouvelles-là, les personnages principaux sont les autrices elles-mêmes qui ont joué le jeu de la photo.
Et de leur personnage.
Et de leur personnage. Et Maya, tu peux en attester.
J'en atteste.
Tu t'es retrouvée à poser dans des bureaux.
Je me suis complètement retrouvée allongée en tailleur jaune.
C'était tellement glamour, la Zac de Thiers.
Du coup, comment ça se passe? C'est-à-dire, tu dois convaincre des autrices qui, elles, bah, forcément, doivent lâcher prise, parce que c'est elles qui sont derrière l'écriture de ces textes-là, de ces récits. Et en même temps, ton interprétation t'appartient et t'as envie, tu veux les emmener quelque part, mais en même temps, peut-être que les autrices ne comprennent pas forcément là où tu vas aller.
Ou ont des limites, peut-être, aussi. Ouais.
Alors, les limites, de toute façon, elles sont fixées bien en avance. Hein. C'est-à-dire qu'avant même que j'ai pensé les photos, avant même le storyboard, c'est... Est-ce que vous êtes prête à, je sais pas, vous mettre en soutien-gorge, vous mettre nue? Il y a très peu de
notion du
dans
consentement finalement.
Absolument.
Dès le départ.
Non, mais c'est important en photographie que tout le monde soit déjà tranquille et puis même moi que je puisse faire mes petits storyboards en ayant un peu une idée précise en tête. De toute façon, moi, je pratique assez peu le nu en photographie. Je trouve qu'il y a une charge érotique déjà très forte avec les vêtements, donc j'ai pas besoin de demander des nus. Mais disons que ça s'est fait en amont. Et en réalité, convaincre les autrices, je sais pas si le mot convaincre est tout à fait adapté, puisque de toute façon, elles connaissaient mon travail
donc elles étaient en confiance
pour le livre. Elles étaient en confiance, absolument. Et puis, plus les shootings avançaient, et plus elles voyaient que quand même, les photos de leurs camarades étaient pas mal. Donc, c'est assez rassurant. Je trouve que le tout, s'il y a peut-être un point qui n'était pas rassurant, c'est que parfois, il y a des robes en polyester avec des épaulettes très osées. Et sur le dressing, et pas en photo, c'est un peu particulier. Moi, j'ai vu des regards de crainte.
Alors, toi, Maya, on parlait de ta tenue jaune. Tu as posé devant trois jeunes hommes de 21 ans.
Absolument délicieux.
Ta nouvelle, c'est 21. Donc, évidemment, en référence à Hold Up 21. 21 ans, c'est quoi l'âge 21 ans? Qu'est-ce que ça représente, un homme de 21 ans?
Ah ben, c'est le
stagiaire,
moment,
en l'occurrence.
C'est le moment où les hommes sont un petit peu sur le fil. Entre avant, c'est vraiment des enfants. Ils n'ont pas fini la rétroversion du bassin. C'est compliqué, ils n'ont pas les épaules découplées. Il y a vraiment un truc de pédophilie qui, pour moi,
technique.
Me semblerait... Mais moi, je ne pense qu'à la technique, en fait. Là, vous êtes des poètes, vous venez me parler de désir. Moi, je suis sur la rétroversion du bassin. Donc, c'est le moment où les garçons sont finis. Et donc, c'est aussi le moment avant la chute. C'est le moment avant la calvitie.
Après 21 ans, tout de suite?
Ouais, assez rapidement. Moi, par exemple, sur Tinder, je fais le choix d'accepter que les garçons entre 22 et 27 ans. Parce que je sais qu'après 27 ans, statistiquement, il y a tellement de mecs qui perdent leurs cheveux que c'est pas possible. Donc c'est terminé. Non mais voilà, c'est pour ça que c'est très précis en fait l'histoire d'âge.
Alors dans cette
on adore. Et alors vous ne le savez pas, mais on a quand même Stéphane Carrière qui est présent, qui applaudit sans faire de bruit, tellement il rigole.
Il montre sa calvitie.
Parce que oui, il a une petite calvitie.
Mais je sais que j'ai le droit de le dire devant lui parce qu'on a déjà eu cette conversation de multiples fois ensemble.
Alors dans cette
n'apprend rien.
Dans cette nouvelle, tu parles de pouvoir, mais en fait, surtout, tu as inversé les jeux de pouvoir, ou en tous les cas, tu as inversé les stéréotypes, puisque c'est la femme qui a le pouvoir. Et tu démarres en disant « Je suis un homme avec un vrai clito d'homme. Comme tous les hommes qui s'ennuient à un moment, j'ai commencé à loucher sur les stagiaires. »
Absolument. J'assume tout à fait cette formulation qui est en fait assez proche de ce qui, moi, m'a fait m'engager dans le féminisme. On ne naît pas femme, on le devient. Et qu'est-ce qui se passe, en fait, quand on a tellement de pouvoir qu'on n'a pas vraiment besoin de devenir une femme? En fait, à ce moment-là, ce qu'on devient quand on a beaucoup de pouvoir, c'est nécessairement un homme. Alors, pas un homme au sens des transidentités ou quoi que ce soit, un homme au sens social du terme.
Comportement et socialement.
C'est-à-dire qu'à un moment, quand on gagne beaucoup d'argent, quand on dirige des personnes, quand on ne fait pas les tâches ménagères, quand on est en sécurité, quand on peut demander sexuellement ce qu'on veut, alors, effectivement, à part des questions de corps... on devient ce que la société appelle un homme. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un petit peu des débats sur ce qu'est un homme et ce qu'est une femme. En tout cas, moi, j'assume ce que je raconte dans le texte. Et j'assume aussi le fait que, dans la mesure où Hold Up 21 se veut une espèce de proposition de 20 et donc 21 avec Abigail, désir de femme qui soit pas de la triche, parce que c'est très facile en fait de faire de l'érotisme en trichant. C'est super, on va dans un boudoir et tout, on met des belles robes, on met des crinolines, et tout le monde a des orgasmes au bout de 5 minutes en se touchant le coude. Là, l'idée, c'était d'être aussi sincère que possible. Alors, bien sûr, il y a mille manières d'être sincère. Mais moi, je suis dans la situation que je décris dans la nouvelle, qui est d'être une femme qui, voilà, qui a plutôt du pouvoir, qui a plutôt de l'argent, qui a plutôt des stagiaires, et dont ça change la sexualité et dont ça change les désirs obligatoirement, en fait.
Tu as fait un documentaire qui a été diffusé en prime time en mai dernier. Hein.
J'en ai même fait trois.
Trois,
mais là, je commence à travailler sur le quatrième.
Qui s'appelle « Désir au cœur du sexe féminin ». On découvre notamment des choses et qu'il y a autant de vulves que de femmes. C'est à travers ce documentaire.
Oui.
Et donc la question, c'est est-ce qu'il y a autant de désirs, de fantasmes que de femmes? Parce que là, il y en a 21 nouvelles, incarnées par 21 femmes, 20 femmes et une artiste, une photographe. Est-ce qu'il y a autant de fantasmes et de désirs que de femmes?
J'ai envie de te répondre non. Et je sais que c'est un petit peu contre-intuitif, parce qu'on pourrait dire, super, on est, je sais pas, 3 milliards et demi de femmes, il doit y avoir 3 milliards et demi de versions de l'érotisme. Et quelque part, dans un monde idéal, ce serait ça la réponse. Sauf que moi, très souvent, les femmes avec qui je discute, quand je leur demande ce qu'elles veulent, elles disent « je ne sais pas ». Donc ça veut dire que leur érotisme, soit il est complètement contaminé par les désirs des hommes ou par ce qui leur est proposé sur le marché l'érotisme féminin, donc je sais pas, des tenues roses, des, je sais pas, des trucs de bachelorette party. Soit vraiment il y a rien, parce que ça peut arriver aussi de complètement lâcher la grappe, ça peut arriver aussi d'être asexuel et de pas avoir d'envie. Mais là, ce qu'on a vu émerger au cours des dernières années, c'est aussi de plus en plus de femmes comme la réalisatrice Ovidie qui disent « voilà, je n'ai plus envie ». Je ne sais plus, et même si je pouvais avoir ce que je voulais sexuellement, je ne saurais plus quoi demander parce que je n'arrive plus à faire émerger un désir qui soit mien. Dans un moment post-MeToo qui nous a beaucoup blessés en tant que femmes, qui a beaucoup blessé notre désir, et aussi face à l'impossibilité finalement de déblayer ce qui a été construit par le patriarcat et de reconstruire un truc à notre place. Donc j'ai l'impression que finalement, des versions de l'érotisme féminin, il n'y en a pas autant que de femmes pour l'instant. Raison de plus
de faire la révolution et de faire un braquage.
D'être force de proposition. Non pas pour dire aux femmes, regardez, vous pourriez désirer ça. Alors c'est super, si elles se reconnaissent dans nos nouvelles, je trouve ça merveilleux.
Mais c'est d'ouvrir des portes pour que...
Et c'est aussi d'enfermer, en fait. Parce que souvent, le désir, on le construit en opposition. Par exemple, moi, j'ai des copines qui vont me dire, moi, je sais pas, je rêve d'un gangbang dans un parking, peu importe. Moi, j'ai déjà suffisamment du mal à gérer une personne pour pas avoir en gérer plusieurs, par exemple. Et je sais que, par exemple, on me dit ça et je me dis « Ah, c'est marrant, ce truc-là t'intéresse ?» Ça me fait réaliser un truc au sujet de mon propre désir, qui est qu'il est très exclusif sur le moment, soyons bien d'accord. et je me dis que là, c'est pas seulement 21 versions du désir féminin qu'on propose, c'est aussi 21 murs sur lesquels les femmes peuvent entraîner leur désir, comme quand on joue au tennis contre un mur, en fait. Et puis ça renvoie la balle, et puis à ce moment-là, peut-être qu'elles vont trouver des choses qui ne sont pas dans le livre. Et là, ça commence à devenir un peu intéressant, mais au moins, on fait une proposition.
Donc, est-ce que Hold Up 21, ce n'est pas carrément le lancement d'un mouvement, voire d'un
parti? Ah, mais c'est ça l'objectif, bien sûr.
Il y a déjà un tome 2 en lancé,
on a le droit de le dire, Stéphane?
Oui,
oui, oui. Il y a un tome 2 en cours, donc oui, voilà, est-ce que c'est pas justement quelque chose de beaucoup plus grand qui va
bien sûr,
parce faire que écho et ouvrir
En fait, en tant que femme, on est souvent envoyé à l'anecdotique, c'est-à-dire qu'il y a genre, le désir masculin qui arrive comme ça sur son piédestal, en disant voilà, alors les hommes, ils veulent ça, des filles de 15 ans, jeunes, fraîches, fermes, avec des seins comme des pommes. Et ensuite, il y a le désir féminin qui serait toujours mystérieux, ce qui est une manière de dire on sait pas, et même peut-être une manière de dire on s'en fout. Il faut qu'on soit très très nombreuses, parce qu'en fait, si on est dans l'anecdotique, si on est juste dans le purement personnel, on va encore être envoyé dans « oui, bon, alors voilà, une personne a dit ça et la parole des femmes, on sait qu'elle est souvent découpée en petits morceaux. » Donc là, l'idée, c'est de faire collectif. 21, c'est un début, mais bien sûr, c'est le début de quelque chose de grand, de vaste, d'international et de transtemporel.
Et Hold Up 21, c'est surtout joyeux et positif. Je crois que c'était le brief
oui.
de départ.
Alors,
je pense que c'est important de le préciser. Je vois que quand j'ai dit joyeux et positif, il y a eu des grands sourires et il y a eu un mouvement. Abigail et Maya ont fait oh, « oui, c'est vrai ». Et même, alors, je le vois au loin, Stéphane dit « oui, je le vois dire oui ». Je pense que c'était... Enfin, je pense pas. C'est la revendication. C'est le brief de départ. C'est de faire de cet objet, de cet ouvrage, du contenu joyeux et positif.
Une réponse finalement à cette grande critique qu'on fait aux féministes d'être toujours en train de se plaindre. critique qui est d'ailleurs pas complètement dénuée de fondement, mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre exactement, par exemple dans le creux du mouvement MeToo ou après l'affaire DSK, où effectivement on a l'impression que tout va mal à ce moment-là et qu'on est aussi un petit peu accablé par ce qu'on entend, par ce qu'on partage entre femmes. Peut-être qu'après un petit moment de sidération, il était important de proposer des choses positives et même des choses qui soient de l'ordre de l'utopie, parce qu'on a eu l'impression de traverser une période tellement dure que déjà pour notre santé mentale, on a bien besoin de choses positives, et aussi pour montrer que, bien sûr, les féministes sont force de propositions positives et pas seulement négatives.
Et tu le dis, se plaindre ou en tout cas avoir des combats, ça doit passer par là, mais c'est l'utopie qui permet, enfin la belle fin qui permet en tout cas de faire bouger les choses et de fédérer.
C'est-à-dire que la dystopie, enfin en tout cas la description des problèmes, sert à savoir ce dont on ne veut pas, et l'utopie elle sert à savoir ce qu'on veut. Moi j'ai l'impression que les femmes elles savent très bien ce qu'elles veulent pas, mais elles savent pas ce qu'elles veulent. D'où l'importance maintenant absolue, peut-être maintenant une fois justement que l'écran MeToo, très, très enthousiasmant mais très, très noir aussi dans son contenu, commence un petit peu à retomber, l'importance du coup de proposer une vision positive qui permette d'aller de l'avant à partir de ça. C'est-à-dire que ouais, on a un peu l'impression qu'il y a eu une grosse explosion et qu'est-ce qui va émerger de tout ça, c'est à nous de le construire.
Et comment on fait des images positives et joyeuses, Abigail ?
Moi, je crois que ça passe par le shooting en lui-même. Pas forcément. Enfin, le rendu des images, bien sûr. Mais je crois que ça passe vraiment sur la façon dont on produit le travail.
Le moment que tu crées aussi.
L'environnement.
L'ambiance, l'environnement, ouais, ce qui se passe aussi.
Absolument. Et je peux vous garantir que dans les miens, on se marre.
C'est vrai.
Mais oui, il y a cette idée aussi que les shootings photos, il y a quelque chose de très enfantin en réalité, même si c'est très réfléchi en amont et tout ce qu'on veut. Au final, ce qui se passe, c'est qu'on a un décor pas possible, complètement improbable, que j'ouvre ma valise et qu'il n'y a que des choses en polyester avec des épaulettes ou des paillettes, des perruques, et tout le monde est content de jouer à un rôle comme dans une cour de récré, donc quelque chose d'extrêmement jouissif. Et je crois que, contrairement à ce qu'on peut s'imaginer, ça transparaît. En réalité, dans le résultat final.
Se lâcher prise aussi.
Oui, complètement.
Et dans le texte aussi, parce que je dois admettre que j'ai rigolé, j'ai ri. au-delà d'explications et de titiller, bref, tout ça est très intime. Et tu sais, Katia, elles ne le savent pas, mais mon rapport à l'intime et à la pudeur. Donc pour moi, c'est un exercice, c'est un challenge vraiment très, très haut level pour moi de parler de désir et de sexualité. Mais je me suis
marrée. Mais t'as pas parlé du tien, là. Hein.
Non, je sais, mais j'en parle quand même.
Titiller. Hein. On avait compris ce que ça veut dire. Hein.
En tout cas, je me suis marrée. Et je me suis dit, finalement, ça répond. Ça répond au brief de départ, c'est-à-dire qu'au-delà des fantasmes racontés et de ces plumes diverses et de ces voix féminines parfois antagonistes, hein, parce qu'il n'y a pas, il y a plusieurs féminismes qui se rencontrent à travers ce projet, j'avoue que ça m'a donné le sourire.
Et si on finissait par un message positif, en tout cas Maya, si tu tous les jours tu donnes plein de messages, mais s'il y avait un message à donner à nos auditrices qui nous écoutent et qui ont justement ce questionnement de je sais ce que je veux plus, mais je ne sais pas ce que je veux, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire ?
Alors déjà, je dis aux auditrices de nous rejoindre, parce que Hold Up 21 et 22 et 23 après, c'est un projet ouvert. C'est un projet collaboratif. Il nous faut non seulement des mots et des imaginaires, je pense qu'il va nous falloir aussi des images, parce que c'est par une multiplicité de médias aussi qu'on va avancer. Donc
acheter des livres,
films, de la musique, de la poésie. Non, mais il y a vraiment beaucoup de choses à inventer. Là, on a fait un livre illustré, mais évidemment que l'érotisme, il doit prendre plein de formes. Et ensuite, pour celles qui ne savent pas quel est leur désir, moi, j'ai cet exercice que je recommande, qui consiste à se demander quel serait le brief qu'on donnerait à un travailleur ou une travailleuse du sexe qu'on paierait, et donc à qui on ne devrait rien, parce que la transaction financière annulerait le grand truc de réciprocité qui coince généralement un petit peu le désir des femmes. Donc de se dire, j'avais quelqu'un que je payais très cher pendant une heure ou deux heures, qu'est-ce que je lui demanderais ?
Qu'est-ce que je lui ferais faire ? Ah, excellent !
C'est une très bonne question.
Si on pouvait arrêter le podcast là, parce que j'ai envie de l'imaginer. je suis partie.
Et un message, Abigail ?
Moi, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Maya, en réalité. Je ne sais pas si j'aurais une formule beaucoup plus élégante que la sienne.
Tu bottes en touche.
Est-ce que tu veux nous dire ce que tu imaginerais
Alors attendez, moi je vais prendre une vodka et puis réfléchir avec toi.
Bah, toutes celles et ceux qui nous écoutent,
on vous invite
à vous poser cette question.
À nous faire des retours.
Exactement. Je crois que c'est la fin de cet enregistrement et de cette rencontre, puisqu'en fait, il va falloir qu'on se prépare pour rencontrer vos collègues. Et bien sûr, Abigail et Maya, on vous retrouve tout à l'heure aux Bibliothèques Idéales pour parler devant un public déchaîné de ce projet, de ce livre Hold Up 21. Mais on va rencontrer aussi vos autres collègues et les autres autrices qui font partie du projet et qui seront présentes. Voilà, en tout cas, c'était un plaisir de vous recevoir à la roue.
Merci
d'être venu à nous. Continuons à parler sexe, à libérer la parole, à parler de désir, de plaisir féminin et de mettre la femme au cœur. Voilà.
C'est de la titillation.
Voilà, je me sens titillée. On se laisse là-dessus. Bisous.
Bisous.
Merci d'avoir écouté cet épisode de La Room, enregistré dans La Room. Merci également à notre partenaire qui s'occupe du mixage et de la post-production, Sepia. On vous invite bien évidemment à partager, commenter, liker cet épisode si vous l'avez aimé.